Et le délicieux Baraton nous a rejoint. Rebonjour Alain.
Oh, quel bonheur. Bonjour Laetitia, bonjour Patricia, bonjour à tous.
Alain. C'est la main verte Alain, et c'est la main poétique puisque Antoine Oudart de La Motte était un écrivain très apprécié en son temps.
Et oui, il est né en 1672 et il a écrit de nombreuses œuvres dramatiques, mais aussi des textes poétiques. Alors Antoine Oudart de La Motte n'a pas, c'est une évidence, la gloire posthume de Jean de La Fontaine. Mais j'avais envie ce matin de vous lire l'une de ses fables qui me plaît le plus, car cet homme a écrit des fables.
Et c'est La Ronce et le Jardinier. Allez-y Alain.
La Ronce, un jour, accroche un jardinier. Un mot, lui dit-elle, de grâce. Parlons de bonne foi, gros Jean, suis-je à ma place? Que ne me traites-tu comme un arbre fruitier? Que fais-je ici planté en haie que de servir de suisse à ton enclos? Mais moi dans ton jardin et par plaisir, essaye, quel gain t'en reviendra, je te le promets gros. Tu n'as qu'à m'arroser, me couvrir de la bise. Je m'engage à rendre à tes soins des fruits d'une saveur exquise et des fleurs qui vaudront rose et lys au moins. J'en pourrais dire davantage, mais j'ai honte de me louer. Mets-moi seulement en usage et je veux que dans peu tu viennes m'avouer que je vaux moins encore au parler qu'à l'ouvrage. C'est en ces mots que s'exhalait l'amour-propre et l'orgueil de la plante inutile. Gros-Jean l'a cru en imbécile. Du temps que les plantes parlaient, on n'était pas encore habile. On transplante la ronce, on la fait espalier. Loin qu'on s'en fit à l'arroser, quatre fois plutôt qu'une, elle était arrosée. Pour elle, ce n'est trop de Gros-Jean tout entier. Comme elle l'a promis, elle se multiplie. Elle étend sa racine et ses branches au loin. Sous ses filets armés, tout se casse, tout plie. Fruits, potagers, tout meurt, les fleurs deviennent foin. Gros-Jean reconnut sa folie et n'en crut plus les plantes sans témoin. Pour qui se vante, point d'oreille, tels gens sont bientôt à bout. À les entendre, ils font merveille. Laissez-les faire, ils gâtent tout.
Waouh, hey, chic, hein.
On a perdu notre pari, Laetitia. Hey. On avait parié qu'il allait s'étrangler au milieu.
Bravo. Une faute de liaison,
bravo,
parce qu'hier.
Il y en avait une faute de liaison.
Oui. Hier, un auditeur m'a rappelé que quand on parle d'artisan, on fait bien la liaison, un bel artisan. Donc artisan, c'est pas un A aspiré, quoi. Voilà, donc là, je me suis vraiment entraîné pour vous faire chapeau. Plaisir. Mais il est vrai que j'aime beaucoup cette petite fable. Quand on pense fable, on ne pense qu'à La Fontaine, il y en a d'autres. Je voulais aujourd'hui rendre hommage à Antoine Oudart de La Motte, célèbre à Paris pour une rue, je crois, Patricia.
Oui, c'est une petite rue qui donne dans l'avenue Félix Faure, au métro Boussicot.
Voilà, vous savez au moins ce matin qui était Antoine Oudart de La Motte, Laetitia Gaillet.
Merci beaucoup pour ce test de culture générale. On va passer aux questions des
avec
auditeurs,
plaisir.
Mon cher Alain. La première des Daniel qui pose cette question. Les abeilles de mon voisin apiculteur vont butiner les fleurs de mon jardin. Qu'elles soient vénéneuses ou non, n'est-il pas dangereux de consommer ce miel, enfin ?
C'est bon, c'est une question qui revient de temps en temps. Est-ce que, par exemple, il est bon de faire du compost avec une plante toxique et ensuite utiliser ce compost dans son potager, etc., etc. Eh bien, rassurez-vous, les abeilles ont la faculté de prendre le pollen, de le rendre propre à la consommation. Sinon, vous imaginez dans la nature le nombre de plantes toxiques et le danger qu'elles représenteraient. Il y a, par exemple, des colchiques. Moi, j'ai la chance d'habiter dans un parc. Au fond du parc de Versailles, il y a des colchiques. L'une des plantes les plus redoutables. Je ne sais pas si la petite abeille butine, mais s'il y a du miel vendu à Versailles, et il y en a, ce serait un drame. Imaginez toutes ces plantes très toxique, donc non, il n'y a pas de danger. Les abeilles ne sont pas folles, le travail qu'elles nous offrent est toujours un travail de qualité.
Et elles butinent pas trop en hiver, en gros elles sont en repos.
Elles
là.
Sont beaucoup plus en repos, bien vu Laetitia Gaillet.
C'est... Oui, parce que vous recyclez vos questions en même temps.
Mais
donc,
non, mais pas du tout. Mais cessez de dire ça.
Allez, la deuxième des Daniels.
Maintenant, je donnerai le nom des auditeurs et la date de l'envoi.
Et leur adresse aussi.
Alors,
comment osez-vous te détruire 24 années de bons et loyaux services?
Il faut que je pose la question de Daniel, une autre Daniel, oui. Parce qu'on ne sait pas si c'est pas la même en même temps. Alors, j'ai un grand houx dans mon jardin, poussé tout seul, la graine a dû être transportée par un oiseau. Ce qui me désole, c'est qu'il fleurit mais ne porte jamais de boule rouge. Est-ce que c'est une histoire de plante mâle ou femelle ?
Si je vous parle d'une plante dioïque, ça vous dit quoi, Laetitia ?
Absolument rien.
J'en étais convaincu, une plante dioïque est une plante qui est tantôt mâle, tantôt femelle. En un mot, c'est une plante qui est sexuée. Il existe des végétaux mâles, des végétaux femelles. Eh bien, le houx est dioïque. Donc, il faut un papa, une maman. Eh bien oui, c'est-à-dire que s'il n'y a pas les deux sexes à proximité, il ne pourra pas y avoir descendance. Il existe maintenant quantité de végétaux qui ont été améliorés, qui ont été transformés, où les plantes sont auto-fertiles, mais dans le cadre du houx, effectivement, si la plante a peut-être, pourquoi pas, été emmenée par un oiseau, il lui faut un camarade de jeu à proximité pour qu'il y ait succession.
Donc résultat, là, son ou à Daniel, il est un peu moche, quoi.
Ben, il est pas moche, il est triste.
Il est triste, d'accord. Corinne, quelles sont les plantes d'intérieur qui aiment et utilisent l'humidité ambiante pour agrémenter une salle de bain, par exemple?
Pratiquement toutes, je citerai en priorité les orchidées. Quand on vous achetez les orchidées, on voit souvent des grandes racines qui sortent du pot. Ben, ces racines ont pour objet de capter l'humidité de l'air, d'où l'obligation de ne pas les couper. Parce que est-ce que vous les coupez, vous les...
Ah non, les orchidées, j'ose même pas y toucher, donc en avoir, c'est...
Parce que t'es personne ne vous a jamais offert de fleurs non plus.
Si, mais en
vous êtes un monstre.
Je me venge un peu.
Mais dans ces cas-là, je les donne à ma maman qui les guérit.
Oui. Voilà. Que l'on embrasse et qui se prénomme Daniel, je crois.
Voilà, exact. C'est pas ma mère qui a posé les questions.
Voilà. D'accord. Bon, donc, effectivement, donc, les plantes captent effectivement l'humidité, mais le problème de la salle de bain, c'est pas l'humidité, c'est souvent la lumière. Parce que peu de gens ont la chance d'avoir une salle de bain avec une fenêtre qui donne sur l'extérieur, ça arrive fort heureusement, mais donc c'est pas l'humidité qui est un problème, mais la lumière. Et si les plantes ont besoin d'humidité, elles ont surtout besoin de lumière.
Alors, Annick, un de mes chênes a des trous dans son écorce et d'après ce que j'ai vu sur internet, il doit être attaqué par des capricornes. Il est à côté d'un bâtiment et j'ai peur qu'il tombe. Que dois-je faire?
C'est l'une des questions les plus complexes qui soit, pour une raison simple. Le capricorne, s'il s'agit du grand capricorne ou du capricorne du chêne, fait partie des espèces protégées. Ce qui veut dire qu'il est interdit de tuer. C'est cet insecte d'une beauté absolument incroyable. Que faire? Il n'y a pas grand-chose à faire. Il faut s'assurer, bien entendu, de la sûreté du végétal, être sûr qu'il ne va pas tomber. Il faut le sonder. Sonder, ça consiste à taper sur le tronc avec un marteau, par exemple, et voir s'il y a des creux dans le fût, pour vérifier vraiment l'assise du végétal et sa solidité. Les capricornes ne sont pas toujours à l'origine du dépérissement du végétal. C'est parce que le végétal dépérit qu'il y a des capricornes. J'espère que vous saisissez la nuance. Donc, pas que faire. Déjà, identifier la bestiole. S'il s'agit d'un capricorne du chêne, on n'y touche pas, l'animal est protégé.
Eh bien, Annick saura, donc elle a les réponses. Merci beaucoup Alain Baraton et à la semaine prochaine.
Avec une joie, mais alors vous n'avez même pas idée.
Je comprends.